Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg pour cette émission spéciale consacrée à Pourim. On a la joie d'avoir avec nous le rabbin Aaron Eliashef. Bonjour monsieur le rabbin.
Bonjour cher ami.
Merci d'être avec nous. Alors, on va parler de Pourim. Juste avant, on va vous donner les horaires. La fête de Pourim, c'est donc le 3 mars et demain, ce sera le jeûne d'Esther, lundi 2 mars, début du jeûne 5h37 et fin du jeûne 18h52. Première question, monsieur le rabbin, concernant Mincha du jeûne d'Esther, on a l'habitude de donner Machatzit à Shekel et Matanot l'avionyme. À quoi ça sert? Et qu'est-ce que c'est ces deux termes que j'ai employés?
Disons que effectivement on donne Machatzit à Shekel, Matanot l'avionyme. On peut donner, mais on peut aussi donner le jour de Pourim, à condition, comme chacun le sait, que ça soit distribué le jour même de Pourim. Si on veut faire des exceptions, il faut demander au Dayan dans quelle mesure c'est possible. Mais effectivement, on donne Machatzit à Shekel. Et ce qui est très étonnant et très intéressant, c'est qu'en ce moment, on ne donne plus vraiment Machatzit à Shekel. C'est-à-dire on donne la valeur de Machatzit à Shekel. Disons, si ça dépend, le Sfaradim, Ashkenaz, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais on voit comment on fait des fois les Machatzit à Shekel en ligne. Donc on a plus ce fameux minhag de à la choule, il y a une espèce d'assiette, une boîte de tzedaka où chacun va donner 50 centimes.
Il y a encore.
Voilà, il y a encore, mais disons qu'on voit que finalement, ça a l'air de se faire en ligne et que ça marche très bien et que ça n'a pas l'air de poser problème.
Alors, concernant cette fête de Pourim, on l'a dit, il y a le jeûne d'Esther, et quand on lit finalement les différentes choses, il y a un horaire. La fin du jeûne commence, le jeûne commence à 5h37 et finit à 18h52. Et on nous dit, ah non, pas manger à 18h52, faut manger après la Megillah. C'est quoi le din?
Oui, c'est un peu une... Non, le din, c'est qu'on pourrait manger. Mais c'est un peu une énigme comme ça, que finalement tout le monde a pris le minhag de jeûner jusqu'à la fin de la Megillah. Et je pense qu'on peut l'expliquer, symboliquement. Maintenant, on est bien d'accord que si quelqu'un veut manger, doit manger avant, il peut le faire, bien évidemment. Ça n'a aucun rapport avec Yom Kippour. Probablement, c'est parce que la fin du jeûne arrive et tout de suite, j'ai la mitzvah de Mikra Megillah, et donc de schéma de Mikra Megillah. Et donc, comme il y a réellement dans la halakha un sujet qui est de ne pas manger avant de faire une mitzvah, enfin, quand je dois faire une mitzvah, de peur que je m'oublie pendant le fait que je mange, etc., probablement que c'est à cause de ça que c'est devenu l'habitude pour tout le monde de prolonger le jeûne jusqu'à la fin de la Megillah. Donc je pense qu'il y a une partie halakhique et une partie symbolique.
Vous m'avez dit Likra Megillah. Est-ce que je dois lire Megillah, ou je dois l'écouter, ou faire les deux? C'est quoi?
Oui, c'est une très bonne question. En réalité, je dois lire la Megillah. Je dois absolument lire la Megillah. Mais il y a une...
Donc l'écouter comme ça, ce ne serait pas bon?
Voilà. L'écouter comme ça, a priori, ce ne serait pas bon. Sauf qu'il y a dans la halakha, on voit qu'il y a une notion qui s'appelle Shomea Keone. C'est-à-dire que le fait d'écouter... En pensant, et il faut bien faire attention à ça, en pensant s'acquitter de que le chaliar tzibour fait pour moi. En vérité, c'est comme le chaliar tzibour, il est un peu mon chaliar, c'est le cas de le dire, mon chaliar. Et donc, il lisait, et en écoutant, c'est comme si je lisais.
Ah.
Je suis acquitté du fait de lire, alors qu'en vérité, il n'y a pas du tout une mitzvah d'écouter. On dit que chez les femmes, il n'y a pas une mitzvah de lire, il y a une mitzvah d'écouter, mais chez les hommes, il y a une mitzvah de lire. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise, disons, cette notion juridique qui s'appelle Shomea Keone.
Écouter, c'est comme dire. On devrait lire chacun la Megillah et pas l'écouter, c'est ce que vous êtes en train de me dire.
Normalement, chacun devrait la lire, chacun devrait la lire, même s'il la lit seul... même si la lit seule, c'est pas, c'est mieux de le faire en tzibour, mais il pourrait même la lire seule.
Alors, pendant cette fête de Pourim, il y a quatre mitzvahs. On va les détailler et on va voir ce que ça regroupe. On commence par la mitzvah de lire la Megillah, où on en a parlé un instant même. Il faut lire la Megillah demain soir et le matin de Pourim. Pourquoi deux fois et pourquoi dans la même journée en fait?
On voit, on fait un petit, à partir du texte de la Megillah elle-même, on apprend qu'il faut lire deux fois.
C'est écrit.
Oui, je ne me souviens plus exactement le pourquoi de ça, mais c'est écrit.
Bah, pourquoi on dit Megillah et pas Haggadah, par exemple? Qu'est-ce que c'est la différence et l'importance de la Megillah? Du terme ou de la chose?
La Haggadah de Pessah, c'est raconter. Ici, on n'est pas dans raconter à quelqu'un. On lit l'histoire historique de ce qui s'est passé, mais c'est pas qu'on raconte à quelqu'un quelque chose. C'est plutôt, on met plutôt l'accent pas sur le côté oral, mais sur le côté écrit.
D'accord. Alors, on parle d'une deuxième mitzvah, c'est l'imishlor madot. Ouais, on va expliquer ce que c'est. Est-ce qu'on envoie qu'à ses amis ou on envoie ses mishlar manot à tout le monde, même ses ennemis?
Voilà, ou...
Principe, hein.
Ouais. Ça dépend un peu la raison. C'est une marloquette connue, la raison des mishlar manot. Il y en a qui pensent que les mishlar manot, c'est un problème de réout, c'est-à-dire de réunir le peuple juif, d'amitié, de convivialité. Et donc, si c'est ça, et qu'on envoie, qu'on envoie aussi à des gens qu'on n'aime pas, ou à des gens qui peuvent refuser, d'ailleurs.
Refuser le mishloach manot.
C'est un sujet. Est-ce qu'on est yotze de la mitzvah mishloach manot quand la personne refuse? Mais ça dépend de ces raisons dont on dit là. Est-ce que c'est un problème d'amitié ou alors c'est un problème de... Seouda, ça veut dire que ce que le Mishloach Manot, c'est permettre à l'autre de manger pour le repas de Pourim. Et donc chacun participe, au cas où il y en aurait qui ne pourraient pas le faire, chacun participe à la Seouda de Pourim de l'autre en lui apportant des choses. D'ailleurs, d'après l'opinion qui dit que c'est un problème de réout, disons, alors il n'y a pas besoin d'envoyer de la nourriture.
Ah.
Moi, personnellement... J'envoie de la nourriture parce que c'est l'opinion retenue dans la halakha. Mais l'autre opinion aussi, beaucoup l'appliquent et envoient des choses qui n'ont rien à voir avec de la nourriture. Et ça a un effet réout, c'est-à-dire amitié, etc. Au bout d'un moment, on a un peu marre de recevoir de la nourriture. Donc vous envoyez, je ne sais pas, un foulard, un livre,
pourtant,
c'est sympa.
Quand on parle de mishloach manot, on nous demande... de ramener des liquides, de ramener des solides. On ne peut pas tout envoyer comme nourriture. En général, c'est des gâteaux et une boisson. Pourquoi cette demande particulière?
Parce que, comme on l'a dit, si on considère que c'est pour la Seouda, c'est pour le repas de Pourim, donc il faut envoyer des choses qui n'ont pas besoin de préparation, c'est important, qu'on peut directement consommer.
Donc je peux envoyer autre chose que des gâteaux.
Voilà, tout à fait.
Oui.
Au contraire, il y a même des gens, si on considère que, si on rajoute à ça un peu de l'autre raison, il y a des gens, si vous leur envoyez, vous n'êtes pas yotze en leur envoyant des choses qui servent à rien pour eux, qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils attendent que vous leur envoyez, etc. Il faut faire un petit peu attention, bien regarder la halakha dans Mishloach Manot, tout n'est pas si évident que ça.
Alors, il y a aussi troisième mitzvah, c'est Matanot Laevionim, le don aux pauvres. On va dans un instant, je me suis demandé pourquoi on n'utilisait pas le terme de Tzedaka. C'est la même chose, non?
Oui, mais Matanot Laevionim de Pourim, ça, des lois aussi qui sont particulières à Pourim, notamment le fait qu'on ne regarde pas à qui on donne. C'est-à-dire, on ne va pas vérifier. Dans la tzedaka, vous avez une responsabilité de l'argent que vous donnez. Et vous avez des règles de tzedaka.
Enfin,
d'abord pour l'étude de la Torah,
d'abord
pour un malade. Oui, mais ça, c'est tzedaka, tzedaka pour les besoins de la choule.
D'accord.
Voilà, c'est pas...
Et là,
il y a des niveaux de tzedaka. Dans Matanot Lavionim, c'est pas ça. Dans Matanot Lavionim, il y a une exigence absolue, disons, juridique absolue, qui n'est pas dans la tzedaka, qui est que la personne soit considérée halakhiquement, donc juridiquement, comme pauvre. C'est-à-dire qu'on cherche, à Pourim, on cherche, même si à la fois on dit on donne à tout le monde, etc., on ne regarde pas, mais pour être vraiment acquitté de cette mitzvah, on cherche ce qu'on appelle le vrai pauvre. Et donc, il y a tout un sujet... Voilà, il y a tout un sujet, à notre époque...
La vie d'impôt, pour savoir qui est pauvre.
Voilà, c'est ça. Mais si on veut être... T'sais, ensuite, on dit, tout celui qui vient, tu donnes. Tout qui est pochette, yado, tu donnes. Mais, pour être acquitté de cette mitzvah, il faut, maintenant, la évion, via évionim. Donc, le évion, on donne une définition juridique de ce qu'est le évion, et on cherche le évion. À part
alors,
ça,
c'est quoi le évion, en français?
Voilà, le
c'est
évion...
C'est un pauvre.
Hein, c'est vraiment quelqu'un qui a particulièrement peu.
D'accord. Quatrième mitzvah, c'est le musté, donc le repas. Alors c'est quoi? C'est fait pour boire du vin et manger de la viande? Ou il y a une symbolique un peu plus spéciale, plus particulière?
Ben, là-bas, la Seouda, d'abord c'est une obligation de Seouda. C'est une obligation de boire, de michté, c'est une obligation de Seouda.
Du vin et de la viande?
Vin, viande, c'est mieux, oui. C'est une obligation. Ça veut dire quoi que c'est une obligation? C'est-à-dire que quand il arrivait un événement, comme à Pourim, un événement qui est arrivé, c'est-à-dire qu'on dit ce fameux miracle de Pourim, comme c'était un moment où Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas faire, on n'était pas en Égypte et on ne faisait pas des miracles comme ça, donc c'est arrivé par des moyens, comme on appelle ça, des moyens naturels. Et donc, quel est le moyen naturel qui a été choisi? C'est quand les gens sont complètement sous, et quand les gens ont tellement mangé qu'ils n'en peuvent plus, donc sous et manger, ça fait faire des choses inattendues. Donc cet inattendu n'a pas l'air. Bah, par exemple, toute l'histoire d'Achashverosh, il est complètement sous, il veut tuer Vashti. Achashverosh, il est complètement sous, au repas avec Aman, etc. Il va prendre des décisions peut-être hâtives, etc. Disons, c'est une manière pour Akadosh Baruch Hu d'intervenir dans le monde que de choisir des situations où tout le monde dira que c'est normal qu'il ait fait ça. Pourquoi? Mais parce qu'il est sous. Donc, c'est par exemple si à notre époque, je ne sais pas, Trump, il fait des décisions complètement abracadabrantes, on dit, bah oui, mais t'as vu le caractère, t'as vu, regarde son enfance, t'as vu les parents qu'il a eus, c'est tout à fait normal, t'as vu la vie qu'il a eue. Donc ça fait comme si c'était normal. Et ça donne des obligations. C'est-à-dire, puisque moi je t'ai sauvé par le fait de manger, et moi je t'ai sauvé par le fait de boire, alors toi tu as l'obligation, c'est pas facultatif, tu as l'obligation de manger et de boire. Ça c'est une manière d'expliquer, ou l'autre manière d'expliquer, c'est de dire, comme ils ont, en termes de tikkun, de
réparation,
de réparation, c'est-à-dire puisque essentiellement au festin, au repas d'Achashverosh, tout le monde a un peu craqué, alors... Maintenant, tu vas craquer, mais pour Akadosh Baruch Hu, c'est un peu comme la faute du veau d'or. Tu as craqué en donnant de l'or. Maintenant, je te demande de craquer en donnant de l'or pour construire le Mishkan. Toujours sous forme de réparation. Donc, il y a un peu ces deux explications-là.
Alors, vous avez parlé de Trump. Ça tombe bien. Dans la fête de Pourim, on parle beaucoup, enfin, en tout cas avant, de Amalek et de destruction. En 2026, dans l'actualité, on peut comparer l'Iran à Amalek ou... C'est trop loin, allez. C'est aller trop loin, plutôt.
Bon, déjà, il faut savoir que... Faire très attention à l'expression « c'est Amalek ». Parce que quand on dit « c'est Amalek », ça veut dire « c'est moi le juif ». Pourquoi? Parce que dans la Torah, on présente toujours Amalek comme étant produit par le juif. C'est-à-dire le peuple juif, quand il est dans un état de doute, ou le peuple juif, quand il est dans un certain état spirituel affaibli, à ce moment-là, ça produit Amalek pour lui permettre de faire tshuva. Donc faire toujours l'impression de dire « c'est Amalek », t'es en train de dire « oui, c'est moi ». Donc, fais tshuva. D'accord? Et on ne peut pas, d'ailleurs, tuer Amalek sans avoir fait tshuva. Il faut d'abord faire tshuva, parce que ce serait pas normal d'être soi-même un vrai voyou et de tuer d'autres voyous. Non, c'est des gens bien qui tuent des voyous, mais ce n'est pas des voyous qui tuent des voyous. Donc, il faut toujours, dans l'histoire d'Amalek, il faut toujours faire tshuva. À part ça, pour l'histoire de l'Iran. Il y a le particularisme d'Amalek, comme dit le Midrash, c'est que on dit, il y a un Midrash dans Esther Rabbah, je crois, Yud, qui dit la chose suivante, qui dit Adam Arishon était le premier des personnages qui ont été créés, Caïn était le premier des tueurs, Evel était le premier des tués, etc., etc. On fait une longue liste. Et à la fin de cette longue liste, on dit Achashverosh était le premier des vendeurs et Aman était le premier des acheteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, rapidement? Ça veut dire, c'est ça le rapport avec l'Iran. C'est-à-dire que pour détruire le peuple juif, ça a un coût. Il faut dépenser, il faut sortir son argent. Ce n'est pas, comme on voit aussi dans les années 30 et ensuite avant-guerre et ensuite pendant la guerre, les Juifs étaient absolument persuadés que grâce à leur argent, ils seraient sauvés. Et qu'ils maîtrisaient tellement, disons, l'économie allemande qu'il ne pouvait rien leur arriver. Mmh. Or, ce qu'on veut montrer, c'est que Aman, c'est le premier des acheteurs, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à donner de l'argent, et beaucoup plus d'argent que tu en as, pour pouvoir te détruire. Et donc, en ça, on voit bien l'Iran, c'est ça qui est assez, assez incroyable, c'est que l'Iran est vraiment un vrai acheteur, ça veut dire faux. Ils sont prêts à dépenser beaucoup. Énormément, énormément d'argent, et dans le monde entier, plus tout ce qu'on ne connaît pas, pour pouvoir détruire les Juifs. Et donc en ça, c'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance avec cette idée que le premier des acheteurs, dans le sens, qui est prêt à dépenser énormément d'argent pour tuer tous les Juifs.
Il y a une mitzvah, dans les quatre qu'on a cités, qui est peut-être plus importante que les autres. Il y a une gradation.
On dit que probablement Matanot Laivyonim, c'est le plus important.
D'accord.
Et voilà, maintenant, combien il faut donner, oui. Tout ça, faut bien, non, il y a toujours un minimum. Dans une mitzvah, il y a toujours un minimum.
C'est la cas, on dit 10% du, voilà, là, c'est du pas salaire, le... et là, c'est pas 10%.
Non.
C'est plus.
Il n'y a pas un...
C'est plus, c'est moins.
On donne une mesure aussi un peu par rapport à la Seouda, l'équivalent d'un repas, etc. À voir.
Ok. Vous demanderez à votre rabbin ou au Dayan.
Exactement.
Il y a un déroulé un peu spécial dans la prière de Pourim. Il y a évidemment Al-Nissim. Il y a la sortie de la Torah. Il y a le Hallel. Il
n'y a pas... Hein?
Il y a le...
Non, il n'y a pas le Hallel.
Non, il y a le... Donc, la lecture de la Torah avec une Haftara. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'on lit d'ailleurs dans le Sefer Torah?
Qu'est-ce qu'on lit? Ah, ben justement, si vous voulez, c'est très important de comprendre, il y a une pédagogie de ça dans la Torah, très, très important de comprendre qu'Amalek vient parce que, à cause d'une certaine situation, une certaine situation créée par le peuple juif. Et on veut nous dire à la fois, nous montrer quel genre de situation crée Amalek. Et on veut aussi nous dire quel est ce qui permet de sortir d'Amalek. Et donc, c'est pour la première fois, on introduit dans l'histoire juive, parce qu'on est avant Matan Torah, on est associé, c'est des gens qui ne savent pas, ils n'ont jamais vu de juifs de leur vie. D'accord ? On ne connaît pas l'histoire juive. On sait rien de l'histoire juive encore. On la découvre. C'est, tout le monde n'est pas prophète à qui on a montré ce qui se passerait jusqu'à... Comme Akosh Bourou a montré à Adam Arishon la fin de l'histoire. On ne sait pas ce qui va se passer. Ils ont le nez dans le guidon. Ils ne savent pas. Et donc, on leur explique en même temps que ce qu'ils font produit Amalek. Et à la fois, on leur dit comment lutter contre Amalek. Et donc, il y a cette fameuse scène incroyable où on dit que Moshe Rabbeinu lève les mains... Et quand il les lève, alors à ce moment-là,
il est supérieur.
Voilà, et quand il les baisse, etc. Donc ils font l'expérience réelle, disons comme s'ils étaient dans une expérience qu'ils vivaient. Ils disent voilà, ça monte, ça descend, on gagne, on perd, etc. Et on dit quoi? On dit à cause de quoi? Quelle est la chose? Dit la Emouna, d'accord? La Emouna. Les mains de Moshe représentent quoi? La Emouna. Et donc, tout le monde connaît la Mishnah, mais ce n'est pas les mains de Moshe qui font la guerre. Et donc, ils font pour la première fois l'expérience que la Emouna tue Amalek. D'accord. Elle l'efface. C'est-à-dire, mais ils ne connaissent pas ce principe d'Emouna. Ils ne savent pas qu'avoir confiance, qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance, c'est quoi la Emouna, etc. Tout ça, nous, on jongle avec ça, on jongle tellement qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire, mais en tout cas, eux, ils font l'expérience de la Emouna, ils font l'expérience de, voilà, on voit que ça permet de gagner contre Amalek. On voit ce qui a permis de le produire et on voit ce qui a permis de lutter contre.
Pourim, c'est 40 jours avant Pessah. Ça veut dire qu'on démarre un mois, 30 jours avant Pessah. C'est-à-dire qu'on démarre un compte à rebours.
Le rapport Pessah-Pourim, bon, Pourim, c'est plutôt la fin de tout le cycle, de tout un cycle, et Pessah, c'est plutôt le renouveau, le début du renouveau de, d'un autre cycle, des Chagim. Mais effectivement, il y a un lien étroit. On voulait mettre l'un à côté de l'autre, ouais. deux Géoulot, ça veut dire la première Géoula, et d'une certaine manière, cette Géoula finale, puisqu'on sait qu'à la fin de l'histoire, Akosh Baruch Hu enverra aux Juifs un roi dur comme Aman, qui leur permettra de faire Tshuva, et grâce au fait qu'ils font Tshuva, ils seront libérés. Donc ça, effectivement, c'est libération. Début d'histoire, fin d'histoire.
Voilà, alors on rappelle donc que demain, ce sera le jeûne d'Esther, et que mardi, ce sera Pourim. On remercie le rabbin Aaron Eliashib d'avoir la gentillesse de venir dans nos studios pour répondre à nos questions. Merci à vous.